Sarah Feinberg est docteure en sciences politiques. Elle a co-dirigé un ouvrage intitulé « 7 octobre, manifeste contre l'effacement d'un crime » auquel ont participé de nombreux intellectuels. Elle venait le présenter en Israël pour la première fois au collège académique de Netanya. On écoute son plaidoyer vibrant pour la mémoire et l'espoir.
Pourquoi un manifeste contre l'effacement d'un crime ? Ce livre est né d'une prise de conscience progressive, douloureuse, je dirais même sidérante, d'un paradoxe qui nous a frappés dès le lendemain du massacre, consistant en ce décalage scandaleux entre un crime qui a été le plus médiatisé, le plus documenté, le plus exposé, le plus exhibé du XXIe siècle, et son immédiate édulcoration, effacement, négation, ou, selon le mot d'usage, le mot que l'on aime tellement à Normal Sup, à Columbia, à Yale et au MIT, la contextualisation. Les faits ne furent pas tant niés que réinscrits dans l'histoire d'un conflit dont ils ont été en réalité présentés comme justification a posteriori. Nous avons été confrontés très rapidement, non seulement à une inversion logique, mais à une inversion chronologique. En réalité, le 7 octobre venait répondre à un génocide, à un prétendu génocide qui l'aurait précédé. C'est-à-dire qu'Israël était intrinsèquement, antérieurement, coupable d'une nature, de posséder une nature génocidaire, face à laquelle le 7 octobre ne serait pas finalement une aberration politique et morale qualifiable de crime contre l'humanité à visée génocidaire. Donc il s'agissait collectivement de penser ensemble cette impensée, de mettre des mots sur une réalité qui était assez peu formulée, celle de l'effacement, et plus encore de nommer les bourreaux. Car comme l'a exprimé Patrick Desbois, qui va venir au campus francophone de Netanya dans quelques temps, on ne peut s'imaginer que des tueurs et des assassins reprennent leur vie à Gaza comme si de rien n'était. 7 octobre, un livre, un nom. Comme l'a signalé David Reinhardt, ce livre n'est pas uniquement un manifeste contre le plus grand négationnisme du XXIe siècle, mais il est également un monument de papier pour restituer, redonner un nom à chacune des victimes du 7 octobre, le gravant ainsi contre une double tentative d'effacement, l'effacement par les hordes génocidaires du Hamas, assistées avec zèle par des milliers de civils gazaouis, et surtout l'effacement par leurs complices intellectuels et politiques qui essaiment dans les chancelleries et les centres du savoir de l'Occident. Et je voudrais, à cette occasion, rendre un hommage particulier à Dan Benhamou, fils de Muriel et de Shmuel Benhamou, qui n'ont pas pu se rendre ce soir à notre réunion parce que cela leur était trop difficile émotionnellement, qui a été tué à Nova le 7 octobre. Dan, comme nos soldats, comme les habitants du Sud, ont tous été tués, massacrés à Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom divin. Et c'est très important de le dire, ils sont tous Kedoshim. Ils sont tous porteurs d'une sacralité. Et c'est cette sacralité que nous tentons d'inscrire, de graver par cet ouvrage individualisé. Alors j'ai parlé de ce livre qui était un livre réponse à un choc individuel et un choc collectif. Mais en réalité, cette prise de conscience, aussi douloureuse fut-elle, et nous enterrons encore des soldats, est sans doute la première porte, ou une porte nécessaire, étroite, vers le chemin de la reconstruction. Claude nous a demandé de parler du chemin de l'ombre vers la lumière. Et pour aller vers la lumière, je voudrais, si vous le voulez bien, faire un zoom out. prendre quelques distances avec ce 7 octobre et essayer de regarder à vol d'oiseau ce qui s'est passé l'année dernière. Et force est de constater que nous sommes dans un renversement quasiment dramaturgique de la situation. Le 7 octobre, nous étions dans une situation d'invasion, d'incursion, au cours de laquelle la souveraineté territoriale et politique d'Israël a été violée pour la première fois dans son histoire très récente. Aujourd'hui, nous avons des soldats qui se battent et des soldates dans toutes les zones tampons d'Israël, agissant pour prévenir des dangers immédiats, une incursion immédiate à Gaza, au sud Liban, en Judée-Samarie, mais surtout en Syrie. Et visuellement, nous sommes dans un mouvement de rétraction, d'expansion, de la rétraction à l'expansion, qui n'est pas évidemment une occupation, mais qui est le signe d'une forme de redressement et en réalité de victoire pour contenir des menaces immédiates. Deuxième marche vers la lumière, c'est la chute du mur de Berlin de l'axe de résistance. Nous avons vu, par un effet domino, l'écrasement, l'effondrement des milices chiites, que ce soit au sud Liban, maintenant en Syrie, et une réalité, en réalité un sillon de lumière stratégique pour Israël dans les mois à venir, accompagné par la destruction colossale de l'arsenal de nos ennemis. Souvenez-vous-en, le 8 octobre, nous craignions une attaque massive de 100 000 roquettes venant du sud Liban, du Liban, qui aurait complètement paralysé le pays, qui en réalité présentait une menace existentielle de par les dégâts humains et matériels que cela aurait causé. Et aujourd'hui même, Tsahal a détruit une grande partie de l'arsenal chimique syrien et a neutralisé les capacités de l'armée de l'air syrienne. Encore une fois, nous sommes dans un reversement à proprement parler dramaturgique. Cet espace nouveau qui s'est créé depuis le 7 octobre nous inscrit, nous fait entrer petit à petit dans ce que j'appellerais le second siècle israélien, en faisant référence au livre de Yossi Shein, Le siècle israélien, dans lequel nous pouvons identifier deux forces vives. La première force, c'est celle de la résistance du peuple. Ce qui s'est révélé le 7 octobre, c'est la résistance du peuple israélien, des civils israéliens, qui ont déployé des forces à proprement insoupçonnées. La deuxième force, et c'est sans doute la force névralgique de notre pays, est la force de la jeunesse israélienne, de ces jeunes filles et jeunes hommes avec des étoiles dans les yeux qui vibrent au pays, à la défense du pays, avec ce naturel déconcertant, comme si la défense d'Israël était devenue, aussi rugueuse soit-elle, leur seconde peau. La reconstruction d'Israël, la lumière d'Israël, porte les teintes tapis de nos jeunes filles et jeunes hommes d'Israël qui tissent, par leur expérience du terrain, le nouveau drapeau du second siècle israélien. Et j'oserais le dire, et sans faire ma mère juive, il s'agit de la plus belle jeunesse au monde en ce début de XXIe siècle.